On a parlé, bien sûr, en long et en large dans ce début d'émission du titre, du sacre de l'Italie. Comment est-ce que vous le qualifieriez en quelques mots?
C'est le sacre d'un entraîneur qui a mis en place un groupe parfait. Il a eu 3 ans pour ça. Manifestement, la dernière année lui a été très utile, je pense, l'année de plus. Et il avait des idées très précises, une vision très précise. Les joueurs y ont adhéré et ils ont amené ce collectif qui était manifestement le meilleur collectif, peut-être en relation avec l'Espagne, qui pour moi était quand même la meilleure équipe du tournoi.
Sans Mancini, on peut couper court et dire que l'Italie n'y serait jamais arrivée?
Bah, écoutez, quand vous avez un guide, c'est quelqu'un qui fédère les énergies, qui réunit l'équipe, qui la met ensemble, qui fait des choix. Et si ce guide a une vision très claire de où il veut aller et de ce qu'il veut faire, ça simplifie quand même beaucoup les choses. En l'occurrence, c'était Mancini qui a une vision quand même plutôt très offensive du football. Il a toujours voulu attaquer. C'est quand même l'équipe d'Italie qui a frappé le plus au but. Bien sûr, ils ont joué 7 matchs, donc en comparaison avec d'autres, c'est peut-être plus difficile. Mais pour une équipe d'Angleterre qui a aussi joué 7 matchs, ben c'est la moitié moins de tirs au but.
On a parlé de guide. Il faut aussi des guidés, entre guillemets. Quels sont les éléments forts qui ont permis à l'Italie de l'emporter?
Bon, alors, on a beaucoup parlé de leur milieu de terrain. C'est vrai que Giorgino a été exceptionnel dans ce championnat d'Europe. Avec Verratti, qui est petit à petit monté en puissance, qui a souffert un tout petit peu au début. Il n'a pas joué. Locatelli l'a remplacé. Et puis Barella, ce milieu de terrain a quand même souvent fait la loi dans les matchs, sauf, encore une fois, sauf contre l'Espagne. Le deuxième joueur à mettre vraiment en évidence pour moi, c'est Donnarumma, qui est un gardien qui est très jeune, et qui a devant lui un avenir fantastique. Là, il vient de signer à Paris. C'est le gardien du futur. Il est grand, il est explosif, bonne prise de balle. Ben, c'est un gardien quasi parfait. C'est peut-être le gardien des 10 prochaines années. Et puis après, au-delà de ces joueurs, eh bien c'est vrai, c'est que ces joueurs-là ont amené au collectif leur qualité. Et puis les deux derniers qu'on va citer, où il en reste un après, mais c'est un petit peu différent, mais la charnière centrale italienne est une charnière fabuleuse d'expérience, de malice, je dirais presque de vice parfois, parce que c'est vraiment, ils font tout juste ou presque tout juste. Et puis un petit mot pour le malheureux Spinazzola, qui était quand même, à mon avis, le joueur le plus efficace jusqu'à sa blessure, avec ses appels dans ce couloir, avec son envie, cette envie d'aller vers l'avant, qui symbolisait très bien l'équipe de Mancini. Malheureusement, ça s'est cassé, enfin ça s'est cessé sur le bris de son tendon d'Achille.
Vous l'avez dit, hein, Yves Debonnaire, Mancini est arrivé il y a 3 ans. On peut dire que l'Italie, à ce moment-là, elle est au fond du trou. On se souvient des visages totalement désarçonnés, hein, des joueurs italiens qui ne s'étaient pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Hier, on a une toute autre vision, évidemment, avec ses joies, mais qu'on avait vu pendant tout le tournoi déjà. On a vraiment l'impression que Mancini a réussi à créer un groupe, comme un club, finalement, qui vit extrêmement bien ensemble. C'est ça, avant tout, d'après vous, Yves Debonnaire, qui a apporté l'Italie hier?
Oui, c'est... Bon. Attendez, il y a quand même des joueurs d'une qualité supérieure, parce que vous ne gagnez pas si vous n'avez pas quelques joueurs exceptionnels, ceux que j'ai cités un petit peu avant. Mais Mancini a pris l'équipe après cette triste élimination contre la Suède pour les championnats du monde en 2018. Il avait 2 ans à la base pour travailler. 2020 a été renvoyé, il a eu 3 ans, il a essayé beaucoup, beaucoup de joueurs. Comme le disait un de mes collègues, Pablo Iglesias, il a vraiment pris des joueurs qui jouent dans une position très claire. Il n'a pas essayé de les placer dans d'autres positions. L'exemple typique, c'est la blessure de Spinazzola. Il a quasiment rien changé. Il a juste mis Emerson à la place de Spinazzola. Ou d'autres entraîneurs ont fait des changements. Par exemple, si je prends la France avec Deschamps, quand il a perdu ses latéraux à gauche, il a tenté une expérience à 3, il a tenté 2-3 choses. Pas Mancini. Mancini a travaillé sur un principe, a travaillé sur des valeurs aussi. Et les valeurs de ce groupe, c'était vraiment... On sentait que ce groupe vivait bien ensemble. Alors bien sûr, les résultats aident à faire bien vivre un groupe. Mais je pense qu'il a fait un très très beau travail avec son staff, qui était composé aussi de pas mal d'anciens joueurs et d'un emblématique joueur avec qui Mancini avait joué, qui s'appelle Viali. Je pense que ces gens-là ont très très bien travaillé avec les joueurs, avec un objectif très clair, avec une vision très claire, avec des principes très clairs. Et l'Italie est récompensée de sa constance.
Vous parlez de...
Ils n'ont pas été toujours fantastiques, parce que contre l'Autriche, en huitième, contre la Belgique en quart, contre l'Espagne, ils ont vraiment été dominés. Mais ils se sont toujours raccrochés à leurs principes, aux choses qu'ils savaient faire et qu'ils voulaient faire. Ça, c'est très fort de la part de Mancini.
Vous parlez de coaching, et d'entraîneur. Arrêtons-nous peut-être rapidement sur Gareth Southgate. Beaucoup, notamment la presse anglaise aujourd'hui, critiquent les choix de Gareth Southgate. On pense évidemment aux entrées très tardives de Sancho et de Rashford, qui touchent, je crois en tout cas, aucun ballon avant le tir au but qu'ils ratent tous deux. Vous comprenez les critiques ?
Rashford le touche avec les mains pour faire une remise en touche quand même.
Quand même.
Non, je suis un petit peu dur là. Non, mais écoutez, celui qui perd sera toujours critiqué. On peut discuter de ses choix. Southgate, tout le championnat d'Europe s'est comporté comme un vrai leader de l'équipe. C'était lui, c'était l'équipe, elle était lui et les joueurs appliquaient. C'était quelque chose de très clair. Et il l'a fait du début à la fin. Ce qui a amené l'Angleterre en finale, avec des résultats quand même assez probants, ce n'était pas toujours simple, mais ils sont arrivés en finale. En finale, il a pris un immense risque. Il a joué avec le feu en disant « Je fais rentrer Rashford et Sancho. Techniquement, ils sont meilleurs, ils vont marquer le pénalty. » Seulement, les pénaltys en fin de match, c'est plus une question de mental, c'est plus une question émotionnelle qu'une question simple de technique. Alors, il a joué. Il a perdu. Aujourd'hui, il est sur le banc des accusés. C'est la triste et dure loi de tout entraîneur. Mais tout ce qu'il a fait avant était dans une vision très claire, très fonctionnelle. Par exemple, en demi-finale, il a fait jouer Grealish. À la 68e, il l'a fait entrer. À la 105e, il l'a sorti pour remettre une défense à 5, pour assurer, entre guillemets assurer, parce qu'ils ont été en difficulté, la victoire contre le Danemark. Il avait une vision très fonctionnelle et c'était lui le leader. L'équipe lui appartenait. Et il a fait ses choix, mais malheureusement pour lui, il a perdu le dernier match. Et c'est vrai que dans ce match, son coaching est discutable et la presse anglaise, comme on la connaît, ne va pas lui faire de cadeau.
Si on regarde maintenant l'Euro de manière un peu plus aérienne, pour ainsi dire, on l'a évoqué tout à l'heure dans l'analyse, il y a eu 142 buts qui ont été marqués, ça fait grosso modo une moyenne de 2,8 buts par match, ce qui est beaucoup, pour ne pas dire plus que beaucoup, pour une compétition comme celle-là. On a tenté l'explication tout à l'heure. Quels sont les éléments que vous retirez, Yves Debonnaire, pour expliquer ce nombre de buts importants ?
Bon, vous savez, en fait, d'un championnat à l'autre, on ne sait pas pourquoi tout à coup il y a ces choses-là. Cela dit, c'était un championnat à 24, donc il y a pas mal d'équipes qui ont quand même souffert. Il y a eu des résultats quand même parfois assez élevés, avec les deux résultats de l'Espagne en huitième et en quart, sauf erreur, avec 2x5 buts, ou en dernier match et en huitième avec 2x5 buts. On a eu quelques résultats qui ont vraiment haussé le niveau des buts marqués. Et puis on a quand même eu des matchs qui ont été des vrais purges, il ne faut pas se tromper. On a eu des matchs qui se terminaient par un vieux 1-1 ou un vieux 1-0 avec un tir cadré, éventuellement deux tirs cadrés, qui vont donc au-delà simplement du nombre de buts marqués. On a des équipes qui se sont contentées de défendre très bas, de prendre peu de risques, de ne pas assumer par exemple le choix offensif. Donc au niveau du nombre de buts, ben voilà, je pense pas qu'on puisse dire c'était un championnat d'Europe exceptionnel sur le plan offensif. C'est un championnat d'Europe où il y a eu des buts, beaucoup de buts, mais il y a quand même eu beaucoup de déchets offensifs et peu, pour certaines équipes, de vraies tentatives de marquer. Donc voilà, c'est un petit peu cette différence-là que je donnerai, mais je n'ai pas une vraie explication, parce que pour qu'on ait une vraie explication, il faudra voir sur la longueur dans les autres championnats d'Europe. En plus, si on passe à combien ils ont dit 32 la prochaine fois.
C'est bien possible.
Donc il y aura automatiquement des résultats plus élevés, parce qu'il y a des différences quand même très fortes entre certaines équipes. Voilà.
Vous l'avez dit, Yves Debonnaire, certaines équipes ont défendu bas. Il y a un élément central sur lequel j'aimerais revenir, c'est la transition. Non seulement parce qu'on a vu certaines équipes qui jouaient bas être très actives et très fortes dans la transition, avec une récupération de balles basse, une transition très rapide en 2-3 passes, on est quasiment dans les 25 mètres adverses. Cette transition-là, elle est dans les programmes de l'ASF, d'ailleurs dans la formation de l'Association Suisse de football. On insiste beaucoup sur la transition. Est-ce que c'est un élément qui est fondamental dans le football actuel?
Oui, bien sûr, parce que si vous heurtez à une défense basse, un petit peu comme les Anglais l'ont fait les 25 minutes de la deuxième mi-temps hier, une défense très basse où on avait Harry Kane qui était à 35 mètres de ses buts quasiment, ou 40 mètres maximum, c'est compliqué de trouver des solutions face à 10 joueurs plus un gardien physiquement très fort, physiquement très puissant. C'est compliqué de trouver des solutions et donc il faut parfois profiter, quand l'adversaire perd le ballon, de trouver les espaces libres qu'il a laissés. Maintenant, tout le monde parle de cette transition, puis en contrepartie, tout le monde parle de la défense préventive. Ça veut dire se protéger de ces transitions. Vous savez, c'est toujours un peu le même problème. On invente un truc et puis on trouve vite l'autre chose qui va aller avec. Mais c'est vrai que la transition, c'est quelque chose, transition défense-attaque, c'est quelque chose de très très important quand on peut la jouer avec qualité et avec des joueurs à grande vitesse. Parce qu'il y a des espaces qui se sont libérés, l'équipe adverse s'est offerte à laisser des espaces et il faut profiter de ces espaces. On a d'ailleurs vu quelques buts fantastiques avec des actions en 2-3 passes. Mais en contrepartie, on a vu pas mal de buts sur du jeu posé. Donc en fait, c'est une question d'équilibre. On doit pouvoir attaquer en jeu posé, on doit pouvoir jouer en transition. La question, elle est où récupère-t-on le ballon et quelle est la situation de jeu. Il ne s'agit pas de toujours vouloir aller vite, 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 ce n'est pas toujours possible. Donc dans ces moments-là, il faut jouer, il faut poser le jeu, il faut essayer de trouver, on va dire, la petite solution qui va mettre hors de position une défense à 8, une défense à 9 ou une défense à 10.
Un autre élément qu'on a pu constater dans cet Euro, c'est aussi les qualités athlétiques hein, des équipes. Quand on regarde la distance parcourue typiquement en moyenne par les joueurs ou quand on voit la vitesse moyenne de certaines attaques, notamment des joueurs comme Sterling, etc., qui sont très très forts dans les capacités athlétiques en termes de conservation de balles, aussi d'explosivité. Est-ce que ça, c'est des aspects qu'on constate aussi chez nous, entre guillemets, en Suisse, dans les équipes de jeunes? Est-ce que ces qualités athlétiques, elles sont en augmentation ces derniers temps?
Alors, les qualités athlétiques sont en augmentation parce qu'aujourd'hui, le football est devenu un sport où les espaces sont très restreints, soit parce que, comme on en a parlé avant, les équipes jouent bas et il y a très peu d'espace et il faut être très explosif pour se procurer un espace et aller donc très vite sur quelques pas parfois. C'est peut-être les 3-4 premiers pas qui doivent faire une différence. Et si vous avez de grands espaces, vous avez besoin d'attaquants capables de manger cet espace à grande vitesse. Donc les qualités athlétiques existent. Simplement, vous n'avez pas chaque année des joueurs comme Sterling, vous n'avez pas chaque année des joueurs comme Mbappé. Ça n'existe pas chaque année, et ça n'existe pas en tout cas chaque année en Suisse. Mais les qualités athlétiques sont une chose, mais aujourd'hui dans le football, on parle d'athlète complet. Et quand on parle d'athlète complet, on parle vraiment physiquement. Les joueurs aujourd'hui sont à un niveau impressionnant. Parce que les championnats nationaux, les 5 très grands championnats, se jouent à un niveau d'engagement qui est fantastique. Mais ce sont aussi de très grands athlètes par rapport à la spécificité de leur sport. Techniquement, ce qu'a fait l'Espagne contre l'Italie, c'est exceptionnel. Ils ont privé l'Italie de ballon avec des joueurs, par contre, comme Busquets, qui eux ne sont pas très rapides, mais qui voient tout très vite, beaucoup plus vite que les autres. Au niveau de l'intelligence de jeu, quand on voit les courses des joueurs, les déplacements des joueurs, la manière de demander le ballon, on atteint des niveaux fantastiques. Et donc, le grand truc pour la Suisse, pour notre pays, c'est de continuer à trouver et à alimenter l'équipe nationale avec des joueurs qui ont ce profil ou qui se rapprochent, je vais dire, de ce profil. Parce que le football dans l'avenir, c'est encore plus de petits espaces, encore plus d'explosivité, encore plus parfois de transition et de course vers l'avant. Il faut trouver ce juste équilibre entre des joueurs très intelligents qui voient vite et des joueurs très explosifs qui vont très vite.
Une dernière question, Yves Desbonnaire. On aimerait avoir votre avis sur l'AVAR qui a été à l'œuvre pendant cet Euro et l'assistance vidéo. Ça a été une expérience réussie d'après vous?
Alors, oui, certains vont vous dire que c'est une expérience réussie. Moi, je pense que l'AVAR telle qu'elle est pose des problèmes dans un sport comme le football qui est un sport d'interprétation. Donc, il suffisait de voir par exemple le carton rouge de Fröler ou le penalty de Sterling. On arrive parfois à du 50-50, on arrive parfois à du 70-30, mais on n'arrive jamais à du 100% d'une décision absolue. Donc l'arbitre qui est sur le terrain, on va juger s'il a fait une erreur manifeste. Et j'aimais beaucoup un article que j'ai lu l'autre jour dans l'équipe. Le journaliste disait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler de l'erreur manifeste de l'arbitre, c'est est-ce qu'il y a faute ou est-ce qu'il n'y a pas faute? C'est la seule question qu'on doit poser. Et dans certaines situations, la VAR ne va pas pouvoir y répondre, parce que le ralenti change un petit peu les choses. Et puis, le dernier point pour moi, c'est que la VAR, quand on est victime de quelque chose, on doit pouvoir nous la demander. Dans beaucoup de sports, il y a le coach challenge, et je pense que dans le football, on devrait peut-être arriver une fois, dans un cadre très précis, à ce que les entraîneurs aient un droit de challenge pendant le match, de façon à ce qu'il y ait une forme d'équité pour, pour juger certaines situations. Mais encore une fois, certaines situations du football sont sujettes à interprétation. Le hors-jeu, il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu, ça c'est clair. Mais le bras, la main, le plongeon ou pas dans les 16 mètres, et hier, Sterling plonge une fois ou ne plonge pas, il y a un contact ou il n'y a pas contact avec, je crois, Chiellini. Voilà, ben il n'y a pas eu de VAR, il n'y a pas eu de décision, ou voilà, et puis il n'y a pas eu pénalty cette fois-là, mais il y a eu pénalty contre les Danois. Donc vous voyez, c'est la limite de l'interprétation, elle est là. Voilà.